Il est 7h46. Jérôme Florin, vous recevez ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Heureusement que vous avez eu l'affaire Benalla.
Pourquoi ?
On a moins parlé des mauvaises nouvelles. La croissance en baisse, vous tabliez sur 2% cette année. Vous espérez maintenant 1,8. Ça veut dire que la fête est finie ?
1,8, c'est plus que ce que nous avions mis dans le projet de budget l'année dernière, qui était de 1,7 pour les 5 ans. Et nous avions même dit que nous étions trop optimistes. Et finalement, on a fait 2 en 2017. Je pense qu'il faut attendre au milieu de l'année. L'année dernière, nous avons eu une accélération de la croissance les 6 derniers mois, particulièrement les 2 derniers mois. Je pense qu'il faut voir la fin de l'année. Ce qui est sûr, c'est que la baisse de fiscalité voulue par le président de la République et la reprise de l'économie montre que nous créons des emplois et que nous sommes sortis de la période de difficultés économiques. Et je suis certain que ça continuera.
Ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir trouver des nouvelles économies. Est-ce que vous pouvez confirmer ce matin sur RTL, Gérald Darmanin, que les employeurs devront bientôt payer une partie des arrêts maladie de leurs salariés ? C'était une information des Échos hier matin.
Non, il y a une concertation qui est faite par la ministre du Travail, par la ministre de la Santé, avec les employeurs, avec le nouveau président du MEDEF, mais aussi avec les syndicats.
Le patronat est vent debout.
C'est normal de pouvoir discuter de la santé au travail. Nous avons des fonctionnaires de la fonction publique, ce que je fais avec Olivier Dussopt en tant que ministre de la fonction publique, mais également des salariés du privé. Donc la concertation, il n'y a pas de sujet tabou.
C'est une idée qui est donc sérieusement sur la table.
Il n'y a pas de sujet tabou. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Une partie des IJ, c'est-à-dire des indemnités journalières, pour parler technique, est prise par les entreprises. C'est une concertation que mène la ministre du Travail et la ministre de la Santé.
Donc les entreprises paieraient 4 jours pour les arrêts maladie de moins de 8 jours, ce qui permettrait de rapporter 900 millions d'euros à l'État.
Non, ce sont des chiffres que je ne confirme pas. Ce qui est important, ce n'est pas un angle budgétaire. Qu'est-ce que 900 millions d'euros sur les 2200 milliards de dettes que l'État a ? Donc, ce n'est pas sur ça que nous faisons des économies. En revanche, ce qui est important, c'est la santé au travail. Il y a une multiplication, par exemple, des arrêts maladie courts. Est-ce qu'ils sont dus à des difficultés de vie au travail ? Est-ce qu'ils sont dus à la vie personnelle des salariés ? Je pense que chacun, sécurité sociale, État, entreprise, a intérêt à s'intéresser à la vie des salariés.
Est-ce que ça ne risque pas de détériorer les liens entre salariés et employeurs ? Un employeur pourrait être tenté de demander à son salarié de revenir plus vite au travail parce qu'il risque de payer ?
Non, je ne pense pas que ce soit comme ça que les choses se font, parce que je crois qu'un chef d'entreprise n'a pas une vision court-termiste de ses salariés, comme un chef d'administration n'a pas une vision court-termiste de ses agents publics. Quand j'étais maire, ce n'était pas mon cas à Tourcoing. Il faut que tout le monde vive correctement dans l'entreprise pour mieux produire. Je pense que quand les gens sont plutôt de bonne humeur et qu'ils sont plutôt heureux de venir au travail, ils produisent plus. Ce n'est pas comme ça, c'est pas à l'inverse qu'on arrive à faire de grandes choses, soit pour une collectivité publique, soit pour une entreprise.
Gérald Darmanin, les Français ont pris en pleine figure la hausse de la CSG en janvier, ils attendent maintenant des compensations.
C'est tout à fait faux, les Français n'ont pas pris la hausse de la CSG. Il s'est trouvé que 4 retraités sur 10 ont eu une augmentation de la CSG. Mais pour la plupart des salariés français, il y a une augmentation du pouvoir d'achat qui sera très importante à partir du mois d'octobre. Arrive également la suppression de la taxe d'habitation. Il n'y a pas eu d'augmentation généralisée de la CSG pour les Français.
À partir de quand la taxe d'habitation ?
Une contre-vérité répétée ne fait pas une vérité. La taxe d'habitation, dès le mois d'octobre, baissera d'un tiers pour 80% des Français. Ceux qui sont mensualisés à la taxe d'habitation, ils sont peu nombreux parce que ce n'est pas l'habitude des Français, ont déjà vu la baisse de leur taxe d'habitation. Mais dès le mois d'octobre, 80% des Français verront cette baisse de taxe d'habitation en moyenne 200 euros, ce qui est très important. Et je suis tout à fait prêt à venir fin octobre pour le constater avec vous.
Les Français seront très nombreux à prendre la route ce week-end. Ça va leur coûter cher. Le prix du carburant est en hausse. C'est lié au prix du baril, bien évidemment. Vous n'y pouvez rien, mais aussi aux taxes. Est-ce que vous allez encore augmenter les taxes sur le carburant ?
Mais pourquoi nous faisons ça ? Et ça, d'ailleurs, c'était fait par Eddy, par Emmanuel Macron pendant la campagne, mais je me rappelle que c'était fait également Eddy par François Fillon pendant la campagne. Parce que le prix du carbone, c'est une façon de pouvoir inciter les gens à changer leur mode de transport. Parce que le carbone, et notamment le diesel, avec les particules fines en plus, font des cancers, de l'asthme et provoquent des dizaines de milliers de décès chaque année.
31% de hausse en 3 ans pour le gazole.
Oui, mais c'est tout à fait normal de pouvoir aller vers un autre système, une économie décarbonée. On ne peut pas à la fois dire que M. Trump est méchant parce qu'il ne veut pas être dans l'accord du climat. On ne peut pas s'esbaudir du fait qu'effectivement, il y a des difficultés très fortes. Et Nicolas Hulot a raison de le rappeler pour le climat en disant il faut sauver la planète, il n'y a pas de planète B. On ne peut pas
Mais ça va peser sur les ménages, sur les classes moyennes.
Non, parce qu'on va changer de mode de consommation.
Les médias, on va payer plus cher l'essence.
Non, vous constatez surtout une très grande une très grande réussite de la prime à la conversion. Aujourd'hui, il y a plus de voitures qui se vendent sans diesel qu'avec diesel, ce qui est un changement en un an énorme dans l'industrie automobile. Et je constate, comme vous, cette énorme prime à la conversion qui fonctionne, puisqu'aujourd'hui, le ministre des Comptes publics est devant un budget, en tout cas ce qui concerne la prime à la conversion, qui a déjà quasiment été utilisé pour 6 mois de l'année, alors que c'était fait pour un an. C'est-à-dire que les Français, notamment les Français de classe moyenne, moi je pense notamment à cette Catherine d'Angoulême, 1150 euros par mois, qui est fonctionnaire et qui a changé sa voiture diesel. Elle habite en ruralité. Elle a changé sa voiture diesel pour une voiture électrique et désormais c'est 7 euros par mois.
Ça, c'est l'exemple brandi par le ministre.
Non, mais vous pouvez rencontrer Catherine, il n'y a pas de problème.
La loi que
je
vous
présente quand vous voulez.
La loi que vous portez, Gérald Darmanin, sur le droit à l'erreur a été définitivement adoptée cette semaine à l'Assemblée. Il s'agit de réconcilier les Français avec l'administration. Vaste programme. Elle s'appliquera quand ?
Ah ben, ça s'appliquera dès que le président de la République l'aura promulgué, c'est-à-dire sans doute au mois d'août s'il n'y a pas de recours de la part des sénateurs, ce qui semble pas être le cas. Et donc, ça s'appliquera immédiatement puisque les décrets d'application seront tous pris dès le mois d'août, c'est-à-dire dès la promulgation du président de la République.
Soyons concrets. Principale mesure, je fais une erreur de bonne foi en remplissant ma déclaration de revenus. Je ne serai plus sanctionné.
Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la bonne foi qui est du côté de l'administration et vous devez démontrer la bonne foi si vous êtes face à une administration fiscale ou toute autre administration. Désormais, ce sera à l'administration de démontrer votre mauvaise foi. Donc c'est vraiment très important comme changement. Il y a également un droit au contrôle. Il y a notamment la multiplication et la publication des rescrits. Il y a effectivement la volonté pour l'administration d'être une administration de conseil et plus simplement une administration de contrôle.
Pareil, en cas de retard, les pénalités de retard sont réduites de 30% et de 50% si je rectifie moi-même. Pourquoi pas de 100%? Allons jusqu'au bout.
Ben non, parce qu'il faut quand même distinguer celui qui n'est pas en retard. Si une société ne distingue pas ceux qui sont en retard de ceux qui sont en avance, comme dirait l'autre, ou en tout cas de ceux qui sont à l'heure, évidemment, vous donnez une prime à ceux qui sont en retard. Mais le retard est quand même à distinguer de la fraude. Voilà. Et donc, il est normal d'adapter les pénalités, les retards, à ceux qui, de bonne foi, disent « faut avouer à moitié pardonner », comme le dicton l'évoque.
Autre mesure très concrète, les numéros de téléphone pour joindre l'administration seront gratuits.
Exactement,
bientôt.
D'ici la fin du quinquennat. Il y a eu
à partir de quand?
Ça dépend des numéros de téléphone, c'est-à-dire que nous n'avons pas voulu couper les appels d'offres en ce moment parce que ça coûterait plus cher, évidemment, de casser ces appels d'offres. Mais d'ici la fin du quinquennat du président de la République, à la demande des parlementaires de La République En Marche, tous les numéros de téléphone seront effectivement gratuits.
Ce matin, c'est le dernier Conseil des ministres avant la quille, Gérald Darmanin. Le gouvernement prend 2 semaines de vacances, le temps d'oublier un peu l'affaire Benalla. Vous espérez que ça va se tasser ?
Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les comptes de la croissance soient bons, que nous continuons à créer de l'emploi et qu'on évite le maximum.
Ça, c'est de la langue de bois. Est-ce que vous espérez que l'affaire dont on a beaucoup parlé va se tasser? Il y a encore des commissions d'enquête à la
rentrée. Comment pouvez-vous dire au ministre du Budget qu'il y a 2200 milliards de dettes, c'est-à-dire le remboursement et donc le patrimoine des Français à sauvegarder, qui fait de la langue de bois quand il dit qu'il veut qu'il y ait de la croissance et qu'il veut de la baisse d'emploi? Voilà.
Affaire, elle va laisser des traces, comme le dit l'opposition?
Elle a laissé de la trace dans l'opposition. C'est-à-dire, moi je disais ce matin un journal qui n'est pourtant pas très favorable au gouvernement, puisqu'il s'agissait en partie d'un titre du Figaro. Tout ça pour ça. L'opposition, s'est ruée comme la misère sur le bac clergé, comme disait ma grand-mère, sur une difficulté personnelle, et a voulu faire une affaire d'État au lieu de s'opposer sur le fond. On n'a toujours pas compris ce que souhaitait l'opposition en termes de croissance économique, de fiscalité, de politique de sécurité. Malheureusement, je constate qu'ils sont dans les délices du système, comme disait
le général. On constate aussi que vous avez été discret pendant la tempête, Gérald Darmanin. Vous n'êtes pas monté au front pour défendre le président de la République. C'est ce qui vous a été un petit peu reproché par certains, en tout cas En Marche.
Mais écoutez, il me semble que si le président de la République avait des choses à me reprocher, il le ferait. Ça n'a pas été le cas. Je crois que j'ai multiplié un certain nombre de rendez-vous médiatiques et j'ai surtout été sérieux et au travail. Il ne s'agit pas de remettre de l'oxygène sur une bougie qui, en l'occurrence, ne consommait qu'une difficulté personnelle.
Vous étiez encore un député LR il n'y a pas si longtemps, Gérald Darmanin. Vous auriez voté la motion de censure, vous auriez crié au scandale d'État.
Absolument pas. Absolument pas. Vous savez, moi j'étais gaulliste et je ne vois pas très bien ce qu'est le comportement gaulliste chez M. Jacob, par exemple, lorsqu'il considère que l'Assemblée doit convoquer les collaborateurs du président de la République. Dans mon engagement gaulliste, il y avait, me semble-t-il, le respect de la Ve République. Malheureusement, je constate que c'est beaucoup de bruit pour rien, comme dit le film.
Votre ami, vous n'arrêtez pas avec les citations, en fait. Les expressions, les aphorismes. Votre ami Xavier Bertrand, dernière citation, tiens, justement, sort la mitraille dans une interview au Point. Les macroniens sont persuadés d'avoir raison contre tout le monde, donc ils n'écoutent rien ni personne. Vous vous reconnaissez ?
Non, je ne me reconnais pas, mais je pense que tout ce qui est excessif est assez insignifiant, si vous voulez une nouvelle citation. Je crois qu'il y a une différence assez forte entre quand le moment où on est au pouvoir et le moment où on cherche le pouvoir. Voilà. Et c'est normal, c'est le jeu de la démocratie.
Il cherche le pouvoir.
Mais bien sûr, Xavier Bertrand cherche le pouvoir. C'est d'ailleurs tout à fait légitime quand on fait de la politique. Et ça reste par ailleurs mon ami personnel. Donc je n'ai aucun sujet sur ce point. Il est par ailleurs un grand président de région. Mais je crois que les Français, ils en ont assez. Que nous ne mettions pas, et c'était le message, me semble-t-il, de l'élection présidentielle, ensemble pour résoudre les grands problèmes. Quand j'entends cette mère de famille sur votre antenne, que vous avez largement diffusée, qui a vu la perte de son enfant et qui appelle les pouvoirs publics à être sérieux dans la lutte contre l'insécurité, je pense que c'est plutôt ce genre de réponse qu'il faut que nous ayons, plutôt que des débats qui n'intéressent que vous et nous.
Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, était notre invité. Merci, bonne journée.
Merci à vous.
Et bonnes vacances.